Et nous allons donc ensemble faire une dernière réflexion en espérant que cela va combler encore certaines attentes. Mais pour sûr, ça ne va pas combler toutes les attentes. Ma prière est que le Seigneur fasse en sorte que chacun reparte d'ici avec au moins un petit quelque chose pour sa gloire et pour notre bien-être, notre bien personnellement. C'est aussi en cela que s'exprime la gloire de Dieu. Parfois, je fais des pensées audacieuses quand il m'arrive d'être en joie, je me dis, tiens, Dieu aussi est en joie parce qu'il est content de me voir en joie. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons développer le sous-thème intendance et responsabilité des richesses. Ah, plutôt celui-là. J'essaye. Tant. Alors, intendance et responsabilité des richesses ou des riches, comme vous voulez. Et je demanderai à quelqu'un, comme ce fut le cas hier, de se tenir gaillardement debout et de nous lire à haute et intelligible voix 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 17 à 19. Donc 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 17 à 19.
Commande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qui place leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes et bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront
pour l'avenir un bon capital, placé en Dieu sûr. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre Père, pour tous ces moments que nous avons passés ensemble à réfléchir sur ta voix, sur ta parole, à chercher à être instruit, à être enseigné. Et nous étions venus pour être à tes pieds, nous mettre même sur tes genoux jusqu'à nous blottir contre ta poitrine pour recevoir de toi et ne perdre aucune miette de tout ce que tu as à cœur pour nous. Car tu n'as à cœur pour nous que de bonnes choses. Et maintenant, Seigneur, que nous arrivons à la fin de ce rendez-vous, nous prions, Père, que ta grâce continue de prévaloir et que nous recevions encore de toi ce dont nous avons besoin et selon toi, pas selon nous. Dieu grand et redoutable, continue de faire des merveilles dans nos vies par ta parole que tu sèmes dans nos cœurs. Exalté sois-tu à jamais, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez très bien que Paul avait établi Timothée évêque de l'église d'Éphèse. Et cette épître, cette portion de l'épître que nous venons de lire, Paul l'a écrite pendant que Timothée s'y trouvait encore à Éphèse. Aussi jeune qu'il était, de lourdes responsabilités pesaient sur ses épaules par rapport aux réalités de l'Église dont il avait la charge. Pour faire simple, disons que l'apôtre Paul délivre ici à Timothée un message précis pour les chrétiens riches de l'église d'Éphèse. Et Paul dit en substance que Dieu a un message pour les riches de l'église. Et que Timothée devrait transmettre ce message-là et même y insister dessus. Et Paul dit que Dieu permet que certains d'entre eux, d'entre les membres de l'Église, soient dans l'abondance financière, non pas pour des motifs égoïstes, ou dans le but tout simplement de s'estimer supérieur ou de s'estimer plus béni que les autres, comme d'ailleurs certains le pensaient. Mais Dieu permet cela pour que ceux qui sont nantis ou ceux qui en sont nantis puissent soutenir l'œuvre de Dieu et aider l'œuvre à progresser, à aller de l'avant. Éphèse était une ville opulente et l'église y comptait donc plusieurs membres, en tout cas l'église comptait plusieurs membres qui sont riches et suffisamment riches. Paul demande donc à Timothée de résoudre dans cette église-là un certain nombre de problèmes et d'enseigner que la possession de la richesse s'accompagne de grandes responsabilités. Beaucoup d'entre eux ne semblaient ne pas en être conscients. Ils ne sont pas conscients de la mission que le Seigneur leur donne en leur conférant cette richesse, en les rendant riches. Beaucoup ne sont pas conscients qu'ils ont eu une mission par rapport à ce statut qu'ils ont. Et il me semble qu'aujourd'hui encore, ce message a grandement besoin d'être entendu dans l'Église. L'apôtre Paul, comme nous l'avons lu, ne condamne pas ceux que Dieu a bénis par des richesses matérielles, mais il les exhorte à bien administrer comme des intendants toutes les ressources qui sont mises à leur disposition. C'est un défi que l'Église aujourd'hui se doit de relever, que les chrétiens d'aujourd'hui doivent aussi relever, surtout ceux qui ont cette grâce que Dieu mette à leur disposition de la richesse, du trésor. C'est un défi que nous devons chercher à vaincre. Être riche n'est donc pas un péché, du tout pas, si cet argent a été gagné honnêtement. Par contre, être riche est un péché lorsqu'on s'attache à ses richesses. Lorsqu'on s'attache à ses richesses et lorsqu'on les gère mal. C'est-à-dire lorsqu'on ne les gère pas conformément à ce pourquoi Dieu nous a donné. Basiquement, quand il nous attribue ses richesses, naturellement, on va en jouir à la base. Il y a l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, qui dit que on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Pour savoir s'il en a un peu mangé ou pas. Naturellement, il ne peut que manger. Et donc, c'est un péché lorsque c'est mal géré. Et Paul adresse aux chrétiens riches 5 messages d'une importance capitale que nous allons voir dans ce texte que nous venons de lire. Mais il y a des préalables tout aussi importants qu'il importe de rappeler avant que nous ne voyions ces 5 messages importants. 3 préalables fondamentaux. Premier préalable, c'est que Dieu est auteur et propriétaire de toute richesse. Dieu est auteur et propriétaire de toute richesse. Au verset 17, d'ailleurs, il dit, mais de mettre leur confiance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. C'est lui qui donne, parce que c'est lui qui en est ultimement le véritable propriétaire. Et 1 Chronique 29-12 dit ceci, « Les richesses et les honneurs viennent de toi, et tu as la domination sur toutes choses. La force et la puissance est en ta main, et il est ainsi, et il est aussi en ta main d'agrandir et de fortifier toutes choses. » Ça vient de Dieu. Jacques 1,16 nous dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout don, dans le sens de ce que nous l'avons évoqué hier, recevoir de Dieu, mais tout don qui nous permette de gérer cela, donc la libéralité, ça vient de Dieu. Et Ecclésiaste 5,18 nous enjoint, et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, mon souhait est que nous soyons désormais et définitivement convaincus de cela et que nous en fassions un acquis définitif. Toute richesse de ce monde que nous recevions, cela vient de Dieu. Et alors même que nous l'avons entre les mains, c'est lui qui en est toujours propriétaire. Même si c'est nous qui signons le chèque, c'est toujours lui qui en est propriétaire. Et c'est bien que nous puissions retenir cela. Nous le voyons encore davantage dans Matthieu 25-15, dans la parabole des talents, où à différentes personnes, il a confié différents montants. Mais nous le verrons également dans Matthieu toujours, 21, le verset 33, dans la parabole du propriétaire patient, qui, étant propriétaire de toutes choses, il a mis là des gens pour pouvoir valoriser, cultiver. Et à un certain moment, Quand il veut s'en rendre compte, les gens ne veulent pas lui rendre compte. Jusqu'à ce qu'il envoie son enfant. On attrape son enfant et puis, comme ça, ça nous revient, semble-t-il. Et donc, tout ceci pour dire que ça appartient à Dieu. Donc, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, pour que ces richesses nous viennent vraiment, arrivent à notre niveau, dans nos mains, sur nos comptes, il faut travailler. Ça ne va pas tomber d'en haut comme ça. Parfois, devant certaines difficultés, par exemple, comme dans la mobilisation de fonds pour le projet Jérivette, pour lequel en partie je suis là, on s'est dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas tomber l'argent là du ciel? Ça, ce n'est pas impossible. Hein? Mais pourquoi il ne le fait pas, voyons? Mais il ne va pas faire. Et John Rockefeller, dont je vous ai donné une citation auparavant, dit ceci, « Je crois que c'est un devoir religieux d'obtenir tout l'argent que vous pouvez de manière juste et honnête, de garder tout ce que vous pouvez et de donner tout ce que vous pouvez. » Il faut travailler pour l'avoir. Il faut être capable d'en disposer et capable d'en faire profiter à d'autres. Intendant donc de ce que je gagne, je dis bien intendant de ce que je gagne, parce que je gagne, mais je n'ai pas gagné. Je gagne, mais ce n'est pas à moi. Je n'en suis qu'un intendant. Il faut bien que je puisse travailler. Et travailler, ce n'est pas facile aujourd'hui. Hein? Trouver du travail et de subvenir à ses besoins aujourd'hui, de sorte que la paresse, le gain facile, la tentation de vivre aux dépens des autres, hein? Tout cela nous guette beaucoup aujourd'hui. Mais Dieu condamne tout cela. Dieu condamne la paresse. Dieu condamne, oh, quel est le terme biblique que j'ai oublié, l'amensalisme, le fait de vivre aux dépens des autres. Les autres travaillent, vous restez, vous mangez ce qu'ils gagnent. Mais eux, ils ne reçoivent rien de vous. La tentation est grande. Et voici quelques principes bibliques pour nous aider un tant soit peu. Le principe biblique, des encouragements bibliques. Sachant que Dieu nous encourage à le faire, à travailler pour manger. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Genèse 3, 17 à 19. Et vous pouvez regarder également 2 Thessaloniciens 3, 7 à 12. Deuxième principe, c'est le principe de l'honnêteté. Et vous pouvez voir cela dans Colossiens, le chapitre 3, verset 23. Et ce principe donc d'honnêteté, qui est édicté dans Colossiens 3, 23, voudrait justement qu'un certain nombre de comportements soient bannis. Donc, Colossiens 3, 23 écarte tout gain malhonnête, c'est-à-dire escroquerie commerciale, travail négligé, absentéisme, emploi fictif, l'usure, la corruption, les fausses factures, des salaires insuffisants ou impayés, ça c'est pour les employeurs. L'emprunt non remboursé et tout autre moyen immoraux, trafic illicite, trafic des armes, produits pharmaceutiques et chimiques, etc., la drogue et tout ce qui va avec. Il n'appartient pas aux chrétiens de s'engager dans ces domaines au prétexte que je vais gagner de l'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Il faut donc travailler, les amis, honnêtement, travailler et gagner honnêtement. Et Proverbe 10, 34 nous dit, « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. » Troisième préalable, une bonne gestion. Et John Wesley nous propose quelques principes simples pour évaluer notre boulimie dépensière. Il le dit en ces termes. En tout cas, il nous propose ici de donner des principes pour que nous ne dépensions pas ces richesses, ces trésors-là, beaucoup plus qu'il n'en faut. Alors, il donne ces principes. Il dit, si à tout moment, au moment de faire un achat, un doute surgit dans votre esprit concernant ce que vous allez dépenser, que ce soit pour vous-même ou pour une partie de votre famille, vous disposez d'un moyen assez simple de le supprimer. Renseignez-vous calmement et sincèrement. Et sérieusement, demandez-vous, en dépensant l'argent, est-ce que j'agis selon mon caractère, c'est-à-dire selon naturellement, dans l'ordre des choses que je veux faire, ou bien il y a quelque chose d'autre, un coin lumineux là-bas, une ampoule lumineuse là, qui fait que je suis en train de faire cette dépense. Mais ce n'est pas aussi ordinaire que ça. Est-ce que j'agis ici, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'intendant des biens de mon Seigneur, par rapport à la dépense que je suis en train de faire, il faut que j'en aie conscience. Suis-je en train de dépenser cet argent-là en tant qu'intendant? Est-ce que c'est dans cette pensée-là et avec cet esprit que je suis en train de le faire? Deuxièmement, est-ce que je fais cela en obéissant à sa parole? Dans quelle mesure l'Écriture m'exige-t-il de le faire, ce que je suis en train de faire, l'achat que je suis en train de vouloir réaliser? Et troisièmement, puis-je offrir cette action, cette dépense en sacrifice à Dieu par Jésus-Christ? Je crois que derrière ce troisième élément, il y a un principe très important, les amis. Parfois, quand vous voulez agir, demandez-vous, mais imaginez que Dieu soit un homme et qu'il soit là avec vous. Est-ce que vous seriez en train de faire ça devant lui? Cela m'a empêché de démissionner des GBU une fois. J'étais encore secrétaire itinérant et il y avait quelque chose qui s'est passé, je n'étais du tout pas d'accord. Et j'ai décidé de m'en aller. Alors, j'ai écrit la lettre de démission. Et comme j'ai un conseiller qui est mon père spirituel, je lui ai envoyé la lettre. Il était à Ouaga, moi j'étais à Abidjan. Il a lu, il a fait des remarques. Je lui ai répondu, on en a discuté. Il n'est pas parvenu à me convaincre. Alors, il a dit, bon, ok. Il voudrait juste me demander... que avant d'aller remettre la lettre à Daniel, que je puisse aller remettre ça d'abord à Dieu. Une fois que j'aurai remis cela à Dieu, alors que je puisse aller remettre ça à Daniel. J'ai essayé de faire l'exercice dans ma tête, comme si je prenais la lettre pour aller remettre à Dieu, mais je n'ai pas pu. Je vais lui dire quoi? Les arguments que j'ai avancés là, avec les hommes, je peux le dire. Mais quand je me suis retrouvé face à lui, j'ai dit, je vais lui dire ça là. Et puis consciencieusement, je sais que je ne pouvais pas le lui dire. Alors, j'ai laissé tomber et je ne suis pas allé donner ma lettre de démission. Et donc, parfois, c'est bien de chercher à imager les choses avec Dieu pour voir si on doit aller de l'avant. Et John Wesley, de conclure, il vous faudra rarement autre chose pour lever tout doute qui s'élève à ce sujet, mais par cette considération, vous recevrez une lumière claire sur la voie que vous devez suivre. C'est-à-dire quand vous vous posez ces trois questions, ces trois séries de questions qu'il a suggérées. Il faut gérer et dépenser. Et comme je l'ai dit hier, ce serait bien d'avoir une liste de priorités. Et imaginez-vous que, comme je l'ai dit aux étudiants, puisqu'ils sont, ils sont amenés à recevoir des bourses, que ce soit mensuelles, trimestrielles, etc., de l'État ou bien de leurs parents, etc., se dit, mais faites toujours cette liste-là. Une fois que vous recevez la liste, quelle est d'abord la dépense que vous faites? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Et donc, nous devons avoir cette priorité-là dans notre vie. Et dans la liste de priorités, donc, il y a pour ceux qui le font, pour les églises qui le font, la dîme, les offrandes, et les cotisations diverses. Et ça, ça doit venir en premier lieu. Cotisations diverses, que ce soit les dons pour des missions, pour l'œuvre, tout ça, ça, ça vient en première ligne. Et quand je dis cotisations diverses, il y a également les cotisations communautaires. Telles par exemple, dans la communauté où vous vivez, le quartier ou la cité, il y a des cotisations. Et il est de notre devoir en tant que chrétien de considérer cela. Et ça, c'est une priorité. Et donc, il y a ces charges-là qui sont de la première ligne. J'ai regroupé tout ça, vous voyez. Et puis, dans la lumière de Dieu, je ne peux plus me considérer comme le propriétaire de mes biens, mais seulement comme un intendant. Ça, c'est pour tout le reste. Allez-y croire que même pour notre garde à manger, je n'en suis qu'intendant. Certes, ma responsabilité est là, c'est clair. Mais je rendrai compte de cette responsabilité-là aussi. Si ma famille n'a pas suffisamment à manger, Dieu va te dire, mais je t'ai donné ça pour nourrir ta famille. Qu'est-ce que tu en as fait? Je ne peux plus dire, j'ai gagné cela de moi. C'est donc à moi, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Zéro. Tu ne peux pas dire désormais ça quand tu te considères rien comme un intendant. Tu ne peux plus dire, c'est moi qui ai gagné ça. C'est moi qui ai fait des heures supplémentaires. C'est moi qui ai fait des courses pour avoir l'emploi. N'est-ce pas que c'est moi qui ai eu la jambe cassée la dernière fois? Ce n'est pas la jambe de Dieu, non? C'est ma jambe. Souvenons-nous, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Te demande-t-il. Mais si tu as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Pour dire que c'est moi qui ai gagné. Je suis tenu d'assurer le bien-être des miens, c'est-à-dire famille et communauté. Cela relève de la justice élémentaire devant Dieu et devant la société. On ne fait rien d'extraordinaire quand on prend soin d'un autre. On ne fait rien d'exceptionnel. C'est un devoir. Si quelqu'un dit Paul à Timothée, en Timothée 5, 1 Timothée 5, 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi. Il est pire qu'un infidèle. Je dois aussi considérer par la suite les nécessiteux autour de moi et je n'ai pas le droit de gaspiller mon argent dans des achats futiles et luxueux alors que d'autres manquent du nécessaire vital autour de moi. Après donc avoir assuré mon nécessaire et mon bien-être, celui de ma famille, je dois mettre mon superflu au service des nécessiteux. 1 Jean, le chapitre 3, verset 17. Et un philosophe chinois de dire ceci, « Savoir se contenter du peu, c'est être riche. » Nous avons ainsi établi les préalables sur la base desquels l'apôtre Paul va adresser maintenant 5 enseignements aux riches de l'église à d'Éphèse. Premier enseignement, il faut qu'ils sachent qu'ils auront à rendre compte de la manière dont ils ont géré leur argent. Rick Warren, pasteur et évangélique, fondateur d'une méga église qui est basée en Californie, attire notre attention en déclarant opportunément que à la fin de votre vie sur terre, vous serez évalué et récompensé selon la façon dont vous avez géré ce que Dieu vous a confié. Bon, ok, on pourrait en dire autrement. Il y a quelque chose que je voudrais dire, mais ça nous prendra beaucoup de temps. Andrew Murray explique, le monde demande qu'est-ce qu'un homme possède, mais le Christ demande comment l'utilises-tu. Vous voyez que ces deux valeurs qui ne vont pas de la même manière. Et un autre écrivain a dit ceci, l'amour de l'argent est la racine de tout mal. L'égoïsme doit en être la sémence. C'est-à-dire que si on en vient à l'amour, c'est quelque part que nous étions égoïstes. C'est pourquoi finalement, nous nous retrouvons amoureux de l'argent. La richesse n'est nullement mauvaise, mais elle représente une redoutable responsabilité à l'égard des nécessiteux, à l'égard du ministère, à l'égard de l'œuvre du royaume. Nous n'avons pas le droit d'en jouir seul et de négliger le financement du royaume des cieux et de négliger les nécessiteux autour de nous. Nous devons mettre notre richesse au service donc de notre prochain et au service de Dieu, car c'est pour cela que Dieu nous attribue cette richesse. D'ailleurs, le monde chrétien a toujours considéré comme une forme de vol le fait de conserver de l'argent superflu tout en laissant le pauvre dans la misère autour de nous. Quand nous donnons aux pauvres, dit Saint Grégoire le Grand, les choses indispensables, nous ne leur faisons point de largesse personnelle, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Nous remplissons bien plus un devoir de justice que nous n'accomplissons un acte de charité. Ce que le chrétien doit ôter de la vanité, des dépenses superflues, il doit le consacrer donc à aider. Ce que je n'aurais pas dépensé pour m'acheter une 12e paire de chaussures, je dois le consacrer donc pour les gens qui sont dans le besoin. Ce que je n'aurais pas dépensé pour m'acheter une 5e voiture neuve, je dois le consacrer pour l'œuvre de Dieu. Ai-je vraiment d'avoir une 5e voiture? Dans notre texte de 1 Timothée 6, Paul commence son exhortation par le mot « recommande ». C'est-à-dire « commande », « ordonne ». C'est un genre de lexique pour lequel nous n'avons pas le choix de faire autrement. Quand une construction est employée avec ce lexique-là, nous n'avons rien d'autre à faire que d'obéir. Commande, recommande, ordonne qu'il en soit ainsi. Ne négocie pas avec eux, ils doivent le faire. Cet ordre devrait donc être reçu comme une urgence, un commandement pour lequel on attend d'eux que l'obéissance. Il n'y a pas d'autre option. Un théologien commente en disant que les chrétiens riches étaient exposés à de si nombreuses tentations qu'un ordre divin pouvait vraiment les protéger des embûches qui allaient se dresser devant eux. Paul a vu qu'il y aurait des tentations devant ces riches-là. Et pour qu'ils puissent les amener à changer d'option, c'est-à-dire par rapport à ces tentations, il faut un coup de force derrière. Il faut un marteau derrière la tête. Et ce marteau, c'est le commandement. Faites ceci, un point, un trait, pas de négociation. Sachons prendre aussi en compte un autre conseil qui est celui de Frédéric Lenoir, qui suggère que pour ne pas devenir esclave de l'argent, affirment les sages de l'Antiquité, il faut, dès l'instant où nous sommes satisfaits dans nos besoins fondamentaux, savoir limiter nos désirs matériels pour accorder plus de place à notre famille, à nos amis, à la passion et à notre vie intérieure. Deuxième enseignement, ils doivent veiller à ne pas s'enorgueillir, mais de rester humbles. Les riches. Le premier danger qui guette le chrétien riche semble être l'orgueil, c'est-à-dire à quelqu'un qui est supérieur aux autres parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a de la richesse. Il se sent supérieur aux autres. En effet, voyez-vous, tout le monde honore l'argent. Et pratiquement tout le monde en cherche, certains l'ont. Et ceux qui en cherchent donc ont des yeux brillants sur ceux qui ont, sur ceux qui l'ont déjà. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un a déjà de l'argent, tout le reste autour de lui se comporte comme si lui, il était un peu supérieur. Et ça, ça fait que lui-même, le riche même, développe une évaluation supérieure de sa personne. Il se croit donc supérieur, alors que il n'est rien, ce n'est même pas lui, ce dont il se glorifie. Hein? Or, Dieu est l'orgueil. C'est le cancer de l'âme, dit Samuel Atzakorzian. L'orgueil. Et l'orgueil, il faut savoir s'attaquer à lui. Sinon, tu feras de l'orgueilleux un super orgueilleux. Et tu feras qu'il va commettre d'autres péchés encore. Je me souviens quand j'étais secrétaire général, il y a un étudiant qui était venu me voir pour me parler d'un autre membre, avec lequel ils étaient d'ailleurs amis. Hein. Ils sont venus du Cameroun ensemble. Et il me dit, non, il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on lui dise qu'il est orgueilleux. Ouais, il faut que tu ailles le lui dire. Je dis, mais Jules, tu sais que si je lui dis qu'il est orgueilleux, il va devenir davantage orgueilleux. Justement, à l'orgueilleux, il ne faut pas dire qu'il est orgueilleux. Tu n'arrangeras pas la situation. Il faut dire plutôt, trouver plutôt d'autres termes. La parole de Dieu nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Et puis, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Et voilà pourquoi Paul dit de leur dire de ne pas être orgueilleux. Parce que ce n'est même pas bon pour eux. Pour eux-mêmes d'ailleurs. C'est le meilleur chemin pour pouvoir perdre d'ailleurs les richesses qu'ils ont. Il importe de savoir que de façon générale, l'attitude du chrétien quant aux richesses est un baromètre de sa vie spirituelle. Elle révèle en fait l'état d'âme de son cœur et peut mettre en lumière un problème majeur dans sa vie. Et c'est pour, j'avais un dicton que je disais. Je dis que notre foi est inversement proportionnelle à la profondeur de nos poches. Un croyant ayant appris à se conformer à l'enseignement des Écritures sur la richesse matérielle manifestera forcément une vie spirituelle saine. Troisième enseignement, ils doivent apprendre à se confier en Dieu et non en leurs richesses, qui sont d'ailleurs incertaines. Les richesses comptent parmi les choses les plus incertaines ici-bas. Le monde économique n'est jamais sûr, car toujours il est fluctuant. Une crise financière est vite arrivée. La valeur et la dévaluation arrivent de façon soudaine. Et le bénéfice des richesses d'aujourd'hui peuvent disparaître du jour au lendemain. Les biens nous sont donnés pour être utilisés, non pour être accumulés. Et à partir du moment où nous les stockons égoïstement, nous allons commencer à nous confier en eux. l'abondance des biens n'est qu'un don de Dieu. Se confier en eux, c'est s'appuyer sur la création au lieu du Créateur, et c'est la chose la plus hasardeuse que nous puissions faire, c'est l'idolâtrie. Encore une fois. Quatrième enseignement, ils doivent être pleins de compassion et de générosité pour l'œuvre de Dieu. Paul recommande aux chrétiens riches de faire du bien et d'être riche en bonnes choses, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Si Dieu accorde des richesses à certains, c'est, dit-il, pour qu'ils soient en bénéfice à d'autres. Ces chrétiens aisés disposent d'un potentiel extraordinaire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais plus leurs richesses sont importantes, plus leurs responsabilités sont aussi grandes. Le chrétien riche doit être un gérant des dons de Dieu, car il aura un jour à en rendre compte, n'est-ce pas? La façon la plus noble d'utiliser son argent est de le faire fructifier dans l'œuvre du ministère, et l'enrichissement personnel doit avant tout être motivé par des raisons saines, j'allais même dire saintes, c'est-à-dire l'avancement du royaume de Dieu, et pas par simple désir de posséder et de consommer. Un auteur inconnu dit ceci: celui qui est riche, c'est celui qui sait quand il en a assez. Heureux donc, celui qui se préoccupe davantage d'avoir une conscience pure qu'une caisse pleine. Et c'est Jean-François de Sales qui dit ça. Quand je faisais des recherches sur lui, j'ai comme l'impression qu'il y a une communauté ou une commune comme ça quelque part ici qui s'appelle Jean-François de Sales. Quelque part ici, au Canada. Remarquons que l'expression dans le texte qui dit faire du bien signifie faire ce qui est foncièrement bon et excellent. Ce n'est pas ce à quoi on se livre, soit dit en passant, on le fait de façon superficielle. C'est comme si quelqu'un qui avait une réserve de millions à côté, le GBU vient le voir, et puis bon, quand vous êtes venu le voir là, tenez 100 dollars. Aïe. Le million, là, tu as fait quoi avec? On pourrait aussi se souvenir, les amis, du conseil de Andrew Carnegie. C'est un industriel et philanthrope écossais. Il dit ceci: l'homme qui meurt riche meurt disgracié. Et Épicure, que vous connaissez bien, qui dit aussi, avec assez de piquant, seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. Ça veut dire que si vous pensez que vous ne pouvez pas vous passer de la richesse, que vous ne pouvez qu'accumuler, ça veut dire que vous ne pouvez même pas utiliser pour votre bienfait. Et c'est pourquoi beaucoup de gens meurent. Vous savez l'histoire avec les peules en Afrique. Il y a des peules qui viennent à l'hôpital, on leur prescrit des examens, ils disent que c'est trop cher, qu'ils ne peuvent pas payer, ils meurent de suite de leur maladie et on découvre sur eux des millions. Et ça, ça s'est passé non pas seulement une seule fois dans les hôpitaux et les CHU en Afrique. Mais c'est connu des peuls. Cinquième et dernier enseignement de Paul dans ce court texte que nous avons vu, la libéralité sans contrepartie est la manière pour les riches d'investir avec assurance dans l'éternité, car de cette manière-là, ils s'assureront pour l'avenir un beau capital bien placé et en lieu sûr. Cette générosité, cette libéralité n'est nullement un sacrifice, mais un investissement dans les vraies richesses éternelles. Et je me dis que c'est ce qu'il me semble que les gens ne perçoivent pas. Voyez-vous, je dis que je suis ici aussi pour l'opération, le projet Géribert, c'est un projet de GBEAF, et nous faisons des campagnes de mobilisation dans les différents pays de l'Afrique francophone, et je ne manque pas de leur dire ceci. Lorsqu'on présente le projet et qu'on leur donne des fiches pour remplir et signifier leur souscription, je leur dis ceci, je dis, je sais qu'après ça, là, quand je vais vous appeler, vous n'allez pas répondre. Quand on va vous envoyer des emails, vous ne répondrez pas. Mais croyez-moi, je serai dur à traiter dans ce cas-là. Parce que si vous ne répondez pas aux appels, si vous ne répondez pas à des emails, nous viendrons chez vous. Et nous ne viendrons pas que chez vous pour vous saluer, pour faire les yeux doux, mais nous allons insister pour que vous donniez. Traitez-nous comme vous voulez, mais nous, nous allons insister pour que vous puissiez donner. Et vous savez pourquoi je ferai ça? Je fais ça parce que ici sur la terre, là, c'est moi qui vais courir derrière vous pour que vous donniez. Mais là-haut, là, c'est vous qui allez courir derrière moi pour me dire merci. Parce que vous allez recevoir des choses là-bas du fait que j'ai couru derrière vous ici et que vous avez donné, alors vous recevrez des récompenses là-bas et vous allez courir maintenant. Ah, Klinger, merci, merci. Je vais te regarder comme ça. Tu croyais que quoi? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Investissez dans l'avenir, dans l'éternité. Quand tu as quelque chose là-bas, ça ne va pas passer. Construis des villas ici comme tu voudras. La terre et le ciel passeront. Ta villa aussi. Tu crois que ça va sortir de ça? Le don présente l'avantage de protéger l'individu contre l'avidité et la fausse sécurité des richesses. Il permet également de s'amasser des trésors célestes ayant bien plus de valeur que n'importe quel investissement ici-bas. Surtout que l'Ecclésiaste 5:10 observe: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Alors, en guise de conclusion de tout ce que nous sommes en train de dire depuis hier, ou plutôt depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, je voudrais emprunter les mots de John Wimber, un pasteur américain et célèbre musicien chrétien que certains connaissent probablement, pour conclure ces moments de réflexion. Et voici les mots en question. De nombreux chrétiens et dirigeants chrétiens ont été neutralisés par l'amour de l'argent et du matérialisme. L'hommage rendu à la richesse devient un fardeau qui sape notre énergie ainsi que notre amour pour Dieu et pour les autres. Grâce au repentir et à la purification du pardon, nous pouvons nous débarrasser de ce fardeau et commencer à laisser Dieu transformer notre système de valeurs. Comme Jésus et Paul, nous pouvons apprendre à nous contenter de ce que nous avons, à vivre modestement, afin de pouvoir contribuer généreusement à l'œuvre du royaume et répondre aux besoins des autres. Fin de citation. Oui, nous prenons ces mots pour conclure, mais nous aimerions davantage vous soumettre cette pensée profonde de Ralph Waldo, un philosophe et poète américain, lui aussi, comme début d'une autre série de réflexions. Je le cite, « Le seul argent de Dieu est Dieu lui-même. Il ne paye jamais avec rien de moins ni avec quoi que ce soit d'autre. Mais faites de l'argent votre Dieu et il vous damnera comme le diable. » Que le Seigneur nous bénisse.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.